Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors on est content de vous retrouver pour ce 49e épisode de l'Étoile Polaire. Aujourd'hui dans le studio, nous sommes deux, on fait l'émission avec Axel.
Oui, bonjour.
Et Fred qui vous parle. Alors, pour cette émission, voilà le sommaire. On va commencer par quelques petites actualités. On va parler en particulier de la fin de la fusée Ariane 5. Ensuite, on fera le ciel ce soir, voir un peu ce que vous pouvez observer en ce moment. Ensuite, on fera un retour sur l'événement On the Moon Again, qui a eu lieu le week-end dernier.
Le week-end du 24 juin,
voilà,
auquel on a participé.
Où on a sorti les télescopes sur la place de la cathédrale à Die pour faire observer la Lune aux passants. Donc on vous racontera un peu comment ça s'est passé. Et ensuite, on terminera l'émission en parlant de Marignac. Donc, le Marignac Fête les Étoiles, le petit festival d'astronomie qu'on organise le 15 juillet. Et voilà, on développera un petit peu pour vous annoncer un peu ce qui se passera ce jour-là. Alors, on va démarrer avec... Oui, on rappelle quand même toujours le podcast de l'émission. Donc sur le site de RDIWA, rdwa.fr, vous allez dans émission, puis émission thématique, et là vous trouvez l'étoile polaire. Vous avez donc tous les épisodes depuis le départ, illustrés avec les photos de l'équipe, en grande majorité, et principalement de Rémi et Axel. Voilà, il y a aussi le mail de l'émission, astro-rdwa, tout attaché, @protonmail.com. Où vous pouvez nous joindre, essayer de communiquer avec nous. Voilà pour les infos générales. Alors, on va démarrer ce 49e épisode par donc ces actualités. Axel, tu voulais nous parler donc de la fin de la fameuse Ariane 5.
Bah oui, cette fusée emblématique de l'Agence spatiale européenne qui est habituellement lancée depuis la base de Kourou en Guyane française, l'accès à l'espace. Pour toute l'Europe, pour tous les pays de l'Europe et membres de l'Agence spatiale européenne. Et bien, elle arrive en fin de carrière. Il y a évidemment une suite qui est prévue, mais qui ne va pas être là pour tout de suite. Ça arrive dans une période un peu de creux pour l'Agence spatiale européenne, puisque, avec les raisons que l'on connaît, les Russes ne décollent plus depuis Kourou avec leur Soyouz, qui était quand même une bonne part de marché pour cette base spatiale, cette base de lancement. Et donc il nous reste Ariane 5, dont le dernier vol, je crois que ce sera son 117e vol, qui devrait décoller le 4 juillet, et qui emporte, je crois, un satellite de communication militaire français et un satellite allemand, je ne sais plus ce qu'il fait. Voilà, donc le 117e et dernier vol d'Ariane 5. Après elle, et ben, il leur reste un lancement prévu en septembre à bord d'une fusée Vega. Mais c'est vrai que sans les Ariane, il ne reste que les deux fusées Vega, dont une a eu des soucis à son inauguration il y a quelques mois avec un lancement foiré, et qui du coup est encore sous investigation, à savoir d'où est venu le problème. Et donc voilà, il n'y a plus qu'un lancement prévu pour l'ESA d'ici la fin de l'année, peut-être un deuxième en décembre avec une Vega C, qui est un lanceur italien. Et puis Ariane 6, elle n'arrivera pas avant la fin d'année 2024, dans les meilleures estimations, puis on sait que souvent les projets spatiaux prennent du retard.
Souvent prennent du retard, un peu comme tous les travaux d'ailleurs.
Ouais. Donc c'est possible que l'agence spatiale ait voilà, un moment un peu dur, un moment sans rentrée d'argent, parce que c'est leur plus grosse source de revenus, les lancements de fusées, même si après ils ont des contrats d'exploitation, des choses comme ça. Mais... Donc voilà, une petite période de creux. Et puis en tout cas, bah, merci à Ariane 5 pour ses
bons et loyaux services.
Comme on dit, c'est ça. Et ces dizaines de... ces centaines même du coup de satellites mis en orbite. Alors là, pour le dernier, ça sera un satellite militaire, mais parfois ça a été des satellites d'observation de la Terre qui servent les écologistes et les sciences de la Terre et du vivant.
Il y en a pour tout le monde.
Ouais, voilà, il y en a pour tous les goûts.
En tout cas, on change de génération.
Elle a lancé aussi tout le système, je crois que c'est... Je vais pas dire une bêtise, je crois que c'est Galileo, une constellation de satellites GPS.
Oui,
pour remplacer, parce qu'aujourd'hui on utilise encore l'infrastructure américaine de GPS, et il y en a qui se sont dit, bon, si un jour on s'embrouille avec les Américains, ce serait bien qu'on ait un truc pour nous. Et donc voilà, ça, c'est une constellation qui est lancée, je crois qu'elle est déjà un peu en activité. Lancée par Ariane 5 au fil des dernières années et décennies.
Ok, donc voilà, génération suivante, une petite période de creux.
Oui, et puis avec une concurrence ardue avec des boîtes privées comme SpaceX ou d'autres. Ouais. Voilà, ce territoire de l'espace qui échappe un peu aux mains des institutions gouvernementales et continentales pour se retrouver plus dans des mains privées comme Elon Musk ou Jeff Bezos avec Blue Origin.
Oui.
À voir ce que ça va donner.
À voir où l'avenir nous mènera là-dessus. Ok. Au niveau des actus. Ah oui, tu t'avais mentionné quand même des images là, qu'avait pris le James Webb Télescope de Saturne.
Oui, alors c'est un peu double difficulté, parce que parler d'images à la radio sans les montrer, c'est compliqué. Et en plus, ces images dont je vais parler ne sont pas encore réellement sorties, puisque le télescope spatial James Webb a pris des images de Saturne récemment. Il avait fait il y a quelques semaines Uranus et Jupiter aussi, je crois. Et là, il s'est attaqué à Saturne et sont déjà accessibles les images dites brutes, sans traitement. Donc on peut les récupérer sur Internet. Alors je pense que ce n'est pas le même traitement que ce que moi je fais quand je photographie la galaxie d'Andromède. Mais en tout cas, voilà, pour les plus motivés, on peut aller chercher ces images brutes gratuitement et faire notre traitement et arriver à une image de Saturne qui doit être pas mal. Et puis les équipes scientifiques sont aussi sur le coup, vont traiter ça dans les jours à venir.
Ils vont les traiter, donc voilà, ouais. C'est aussi ça l'idée, c'est si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir. Moi j'avoue que j'ai envie de voir les images de Saturne que va donner le James Webb Télescope, ouais. Donc à surveiller sur le site de la NASA ou autre.
Ouais, sur tout leur réseau.
Pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà.
Tout à fait.
Et bien voilà pour ces actus. On va passer donc au ciel ce soir. Vous dire un peu, donc là ça y est, on a passé quand même cette phase où il y avait des nuages un peu tous les jours, hein, sur le mois de mai, puis une partie du mois de juin, on n'était quand même pas gâtés. Là ça a un petit peu changé, il y a eu quelques belles nuits quand même, et il y en a certainement d'autres qui se préparent. Donc là, quand le soleil se couche, et ben on a vraiment on a cette transition entre le ciel de printemps, la fin du ciel de printemps et le début du ciel d'été. On est vraiment là-dedans. Donc là, ce qu'on voit encore, par exemple, le lion en tout début de nuit, qui va ensuite assez rapidement se coucher. Et là, on est très vite sur évidemment la grande ourse. Et là, vous voyez, en fait, quand vous voyez la grande ourse et sa forme de casserole, vous avez le manche de la casserole qui est courbé. Et en fait, là, vous avez tout un espace qui s'ouvre, on va dire, à l'est de la grande ourse, en fait. Et ben, c'est le ciel d'été, quoi, grosso modo, puisque vous avez ce départ de la queue. Si vous suivez l'arrondi, vous allez tomber sur une étoile bien brillante et orangée qui s'appelle Arcturus, qui est dans le bouvier. Le bouvier, ça ressemble à une sorte de cerf-volant dans le ciel. Et ensuite, juste à côté, vous avez ce demi-cercle-là, qui est la couronne boréale, avec au centre de ce demi-cercle, la perle ou Margarita, une étoile assez brillante aussi.
La gemme.
Et quand vous prenez donc cet Arcturus, cette étoile orangée que vous trouvez en descendant de la grande ourse, et que vous l'alignez avec la perle au milieu de l'étoile, au milieu de la couronne, vous prolongez et vous arrivez sur une autre étoile, vous arrivez sur Hercule, en fait. Hercule, lui, c'est vraiment l'entrée du ciel d'été. Donc Hercule qui a la forme d'un H. Là, je vous engage, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le ciel, à regarder une carte du ciel et à essayer de repérer.
Oui, c'est pas la plus facile à trouver, Hercule.
Pas forcément la plus facile. Et puis ensuite va arriver le triangle d'été. On a Pégase aussi.
Ouais, le grand carré de Pégase.
Le grand carré de Pégase, qui ne se lève pas tout de suite, mais qui est très bas sur l'horizon au départ, en fait, puis qui petit à petit commence à s'élever. Donc, qui dit Pégase dit aussi Andromède. Ce grand carré, il n'est pas forcément évident à voir au début. Une fois que vous l'avez dans l'œil, c'est une constellation très. Il y a un vrai carré. Quoi.
Ouais, un vrai carré avec rien dedans. Il y a deux étoiles dedans.
Donc c'est assez net.
Négligeable. Ouais.
Et dans le prolongement, en fait, de la partie supérieure du carré, si vous allez, on va dire, vers la gauche, vous avez un petit alignement d'étoiles qui continue. Et de là, vous pouvez trouver assez facilement Andromède, la grande galaxie d'Andromède.
Notre voisine.
Qu'on voit à l'œil nu comme une tache. Et qu'on peut très... le plus simple, c'est de l'observer aux jumelles. Et d'ailleurs, c'est peut-être probablement comme ça que vous aurez la meilleure image.
Mieux qu'au télescope.
Mieux qu'au télescope. Parce qu'elle est tellement grande, en fait, qu'au télescope, soit on n'en voit qu'une partie, soit ça n'a pas un intérêt majeur. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est en photo. Parce que là, vous pouvez vraiment faire apparaître les détails et voir vraiment la forme de cette galaxie spirale qui est vue, on va dire, de trois quarts. Maintenant, son inclinaison. Et qui est vraiment belle à observer.
Et puis sinon, oui, c'est trois étoiles brillantes. Hein. Imaginez, vous êtes au bord de la Drôme ou chez un ami, tranquillement, l'apéro s'attarde un peu, le ciel s'assombrit, et vous levez les yeux et juste au-dessus de vous, il y a trois étoiles brillantes. Trois étoiles, c'est facile d'y voir un triangle, on l'appelle le triangle d'été. Et ces trois étoiles brillantes qui ne sont pas à proprement parler une constellation, puisque chaque étoile fait partie d'une constellation. La plus au sud, la plus proche de l'horizon, la plus basse, c'est Altaïr, qui fait partie de la constellation de l'Aigle. La plus à l'est, côté coucher de soleil, à l'ouest, pardon, ce sera la Lyre, avec Vega. Et puis, dans la Voie lactée, la Grande Croix du Nord, on l'appelle comme ça parfois, c'est le signe avec l'étoile Deneb, qui est une des étoiles visibles à l'œil nu les plus lointaines, qui nous est accessible à l'œil nu. Elle est, on pense au moins à 1500 ou 2000 années-lumière. Elle est tellement loin que nos méthodes sont assez peu précises pour estimer sa distance. Une énorme étoile d'Eneb, je crois que elle fait, je crois que c'est 200 fois la taille du Soleil, qui fait déjà 100 fois la taille de la Terre, 110 fois. Si on remplaçait notre Soleil par d'Eneb, sa surface se rapprocherait de l'orbite de la Terre un peu.
Ouais, c'est énorme. Juste pour préciser, quand tu dis que le Soleil fait 100 fois la Terre, c'est son rayon.
En diamètre, oui.
En rayon, en diamètre. Oui. En volume, ça fait 1 million. Quoi.
Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, si on prenait un Soleil creux et qu'on le remplissait de Terre.
Il faut 1 million de Terre, à peu près. Ouais.
Donc voilà, ce grand triangle et cette grande croix aussi, le cygne, qui est un oiseau qui semble migrer vers le sud dans la Voie lactée directement. Il est dans tout le prolongement de la Voie lactée. Ben on peut dire que cette émission 49, le podcast sera illustré par un des célèbres objets du ciel qui se trouve dans le cygne, appelé les dentelles du cygne, qui a un numéro NGC 6992. On l'appelle aussi les nébuleuses du voile, il y en a deux, enfin voilà. Et en photo sur le site de rdw.fr, vous trouverez la petite dentelle du cygne.
La petite dentelle du cygne imagée par Axel. Ouais.
Sinon, il n'y a pas beaucoup d'objets messiers dans le cygne. Je crois qu'il y a M29 et M39 qui sont des amas ouverts pas remarquables. Il y a quelques NGC sympas. En photo, il y a vraiment de quoi faire des grands champs, la nébuleuse Amérique. Je sais plus quoi. Il y a la nébuleuse du Croissant, NGC 6888. Qui est dans l'alignement, dans le cou un peu, on pourrait dire dans le jabot du cygne.
Donc là, ça nécessite effectivement soit de faire de la photo, soit d'avoir accès à des gros diamètres.
Oui. Alors on en reparlera à la fin de l'émission, mais ouais. Si vous voulez nous rejoindre à Marignac le 15 juillet, il y a de grandes chances que l'un d'entre nous vous montre à un moment les dentelles du cygne,
oui.
Qui pour moi est un des plus beaux objets du ciel.
Des plus beaux objets du ciel, ça c'est sûr. Ça ressemble à... ce sont des filaments de gaz, donc filaments de gaz un peu laiteux. C'est un rémanent, un reste de supernova.
Oui, tout à fait.
Donc une étoile extrêmement massive qui a complètement explosé à la fin de sa vie et éjecté sa matière comme ça dans le milieu interstellaire. Et tout continue de bouger, ça fait ses formes de voiles qui à terme vont se disperser sur une échelle de temps du million d'années ou de plus.
Oui, c'est ça, parce que ça fait 10 000 ans que ça a explosé à peu près, on estime. Ça bouge à plusieurs kilomètres par seconde, mais avec ces échelles de taille et de distance, pour nous, à l'échelle d'une vie, on ne voit pas la différence, on ne les voit pas bouger.
Mais un jour, elles disparaîtront.
Elles vont s'étendre, se diluer dans l'espace.
Diluer, exactement, dans le milieu interstellaire. En tout cas, pour l'instant, et puis pour encore un petit moment, on peut les observer. Oui. Et c'est vrai que c'est un objet qui est extrêmement beau et qui, pour le coup, quand même, se révèle vraiment à gros diamètre. Quoi. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour des diamètres plus petits dans ce triangle d'été, dans la nébuleuse de la Lyre? Il y a le fameux anneau de la Lyre, nébuleuse de la Lyre M57. Qui se trouve entre les deux étoiles les plus opposées à Vega, dans cette constellation, les plus loin de Vega. J'ai un ami qui l'appelle le donut de l'espace, un petit cercle. Alors c'est pas tout à fait le même phénomène, c'est une étoile arrivée en fin de vie, mais qui n'était pas aussi lourde que celle a donné une supernova, et qui s'est plus simplement diluée dans l'espace sans réelle explosion, ou alors
Bah, on peut l'imaginer, quand même, hein, oui. Elle éjecte quand même sa matière.
On peut imaginer une explosion en slow motion un peu sur des milliers d'années.
Oui, c'est
millions
beaucoup moins brutal qu'une supernova. D'ailleurs, ça donne des structures qui sont beaucoup plus régulières. Oui. Toutes les nébuleuses, ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires.
C'est ça.
Ça a toujours une forme quand même assez régulière.
Oui, relativement circulaire.
Mais il y a quand même une explosion.
Ouais. Donc ça, c'est accessible même avec un petit instrument, oui. Avec un télescope d'entrée de gamme. Aux jumelles, je ne suis pas sûr, mais voilà, avec un petit télescope. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre, par exemple, aux jumelles? Je pense à... Là, il faut se rapprocher de l'Aigle et de Altaïr. Pour être très précis, je crois que c'est en dessous, dans l'écu de Sobieski, mais bon, on peut partir de l'Aigle pour la trouver. C'est l'amas ouvert M11, l'amas du canard sauvage, qui est chouette autant aux jumelles qu'au télescope. Même si, bien sûr, au télescope, on a une meilleure résolution, mais... Voilà, une bonne pouponnière d'étoiles, comme on appelle ça.
On sait que les amas ouverts, bon, par exemple le double amas de Persée ou des choses comme ça, moi je préfère les observer aux jumelles.
Ouais.
Je trouve ça plus beau en fait. On voit tout, ils apparaissent un peu plus... Pour moi c'est les images que je préfère. Après ouais. Là c'est vraiment des choix esthétiques,
oui,
personnels. Et chacun met bien le grossissement qu'il veut derrière son oculaire. Voilà.
Donc ça en tout cas, voilà, c'est ces trois constellations et cet astérisme du triangle d'été, c'est ce que vous allez voir au-dessus de votre tête, bien au-dessus de vous, tout au long du mois de juillet et août. Mais on peut parler, peut-être tu veux parler un peu plus du sud, de l'horizon.
Je voulais parler un peu, mentionner le scorpion quand même, qui depuis 15 jours, 3 semaines, recommence à pointer le bout de son nez. C'est quand même une très très belle constellation, donc vous allez la voir se lever, je dirais... Oui, est, bon, à l'est, mais c'est sud-est plutôt.
C'est des constellations qui sont très proches de l'horizon, le Sagittaire et le Scorpion. Ouais.
Et vous allez voir une étoile orangée, assez brillante, qui est Antares, qui est l'œil du Scorpion. Et ensuite, vous avez trois étoiles, on va dire quasiment plutôt verticales, et qui représentent les deux pinces du Scorpion. Après, là, on ne le voit pas encore, mais le Scorpion, c'est une constellation qui est assez étendue dans le ciel, qui en fait a une queue qui descend très bas et qui remonte ensuite un petit peu.
Ouais.
Donc c'est vraiment une très belle constellation. Il va falloir attendre un petit peu dans l'été pour qu'elle monte un peu en latitude et qu'on la voit mieux.
Oui, en plus depuis 10, on a juste un devant. Il faut prendre un peu de hauteur pour mieux l'apprécier en ce moment. Ouais.
Et ça aussi, c'est une constellation très très marquante du ciel qui d'ailleurs a été plus ou moins divinisée par plein de cultures.
Oui.
Je sais que par exemple c'est Iemanjá, la déesse des eaux salées au Brésil, c'est le scorpion par exemple.
Oui.
Donc voilà.
Cette étoile elle est remarquable, Antares.
Oui.
Et puis ouais, juste à côté du scorpion, à sa gauche, on a à son est, on a la Voie lactée et à l'opposé, en miroir un peu, on a la constellation du Sagittaire. Et toute cette zone-là, entre les deux, qui est en fait le centre, vers le centre de notre galaxie, vers là où se trouve le trou noir supermassif autour duquel orbite la Voie lactée, notre galaxie.
À condition qu'il existe vraiment, celui-là. Moi, je trouve des trucs qui ne sont pas complètement clairs, quand même, je pense, dans les modèles.
Il y a quand même des...
Trou noir, qui est une énorme masse au centre de la... De la Voie lactée, oui, de la galaxie, de notre galaxie qui est la Voie lactée, ça semble assez clair. Après, la nature de cette grosse masse, je sais pas, moi j'ai toujours un peu dubitatif. En plus, c'est difficile d'aller voir ce qu'il y a au centre, parce que c'est tellement dense en étoiles que de toute façon, on n'arrive pas à le voir vraiment, ce centre.
Mais on a pu observer quand même aussi des étoiles qui semblaient orbiter autour de quelque chose qu'on ne voit pas.
Ouais.
Voilà, c'est de là qu'est venue un peu l'idée il doit y avoir
un gros trou. Voilà.
Mais on peut trouver ça, ces images un peu time-lapse sur des années du mouvement des étoiles, un peu erratique à cet endroit. Enfin bon, en tout cas, ce trou noir, qu'il existe ou pas, on ne pourra pas l'observer, on ne pourra pas vous le montrer au télescope qu'on utilise nous. Mais voilà, je trouve que c'est bien de le savoir quand même, que quand on regarde par là, on regarde la lueur faible de milliards d'étoiles.
Et alors voilà pour un peu les constellations qu'on peut observer. On va parler un peu des planètes rapidement. Toujours Vénus au couchant, toujours très brillante, qui est là donc à l'ouest. En ce qui concerne Mars
elle est dans le ciel,
n'est pas réellement observable parce qu'en fait elle est trop basse, elle est loin de la Terre en ce moment, donc en plus elle est petite.
Oui.
Donc c'est pas du tout une bonne configuration pour observer cette planète.
Ouais, autrement qu'à l'œil nu. Et voilà.
C'est ça. Jupiter, on l'a pas, a priori. Et Saturne qui arrive vers 2-3 heures du matin. Alors, dans le Verseau.
Saturne qui arrive à 1h ou 2h du matin. Et Jupiter encore 3 heures plus tard, quasiment levé du jour.
Levé du jour.
On a Jupiter un peu avant. C'est cet été, ça va pas être le meilleur été pour observer les planètes.
Non.
En tout cas, ce sera pas pour les couches tôt. On a ça, elles arrivent tard. Et en plus, Saturne, comme on le disait à la dernière émission ou celle d'avant, je sais plus, il y a un phénomène de perspective qui fait que régulièrement, je crois que c'est tous les 15 ans à peu près, les anneaux de Saturne se présentent à nous vus par la tranche. Et comme ils sont très peu épais, on les voit plus.
Et du coup, c'est assez frustrant parce qu'il y a quand même toute cette beauté de Saturne qui vient de ces anneaux. Et que là, on va rentrer dans des périodes. Alors, ce n'est pas encore le cas,
ça,
on l'a observé l'autre soir.
Dire. Ça, c'est pour l'année prochaine qu'on
elle
les
est
verra
encore
plus.
Bien.
Là, on les voit très fermés, mais on les voit encore.
On les voit encore.
Un peu tard.
Oui.
Ça sera mieux en août. Et puis, ça sera de mieux en mieux en se rapprochant de la fin de l'année aussi. Mais pour l'été, en tout cas, ouais, c'est...
Et j'ai vu que Saturne attaquait bientôt un mouvement rétrograde aussi.
Ah oui, on repart dans l'autre sens dans le ciel.
Va repartir dans l'autre sens dans le ciel. Alors ça, c'est des effets de projection.
Oui, avec nous qui tournons. Tout ça,
voilà. Ouais. Et c'est Mars aussi, plusieurs planètes comme ça qui présentent des mouvements rétrogrades. Voilà pour les planètes, ce qu'on pouvait dire sur le ciel dans ce moment. Chose à dire, Axel, sur ce ciel ce soir.
On a fait un bon petit tour. Si on a oublié des choses, eh bien, on les rappellera à Marignac le 15.
À Marignac, voilà. Ok. Alors, on vous souhaite de bonnes observations. Hein.
Ouais.
Et puis, on va continuer cette émission avec, donc, comme vous l'avez annoncé, un retour sur l'événement On the Moon Again. Alors, on rappelle, il me semble qu'on l'avait quand même mentionné dans l'émission d'avant, mais on va le rappeler. On the Moon Again, c'est un événement qui est, tu disais, Axel, à l'origine de la... proposé par la SAF, la Société Astronomique de France.
Soutenu par la SAF et proposé par une équipe de scientifiques.
Mais à l'international, ce n'est pas uniquement français.
Oui, c'est ça.
Donc c'est un événement, en fait, qui a pour but, en fait, juste de promouvoir l'astronomie, c'est tout. D'inciter les gens à lever le nez, à observer le ciel.
Oui, c'est ça. Et à partager l'émerveillement un peu, ouais.
Voilà, et qui dit donc, vous, les astronomes amateurs qui possédez un télescope, pour une fois, vous allez le sortir sur la place publique, de préférence dans un lampadaire.
En fin de journée.
En fin de journée, pour faire observer la Lune aux passants.
En fin de journée même, il est question ici de 18h. Quoi.
Voilà.
Fin d'après-midi.
Donc c'est ce qu'on a fait avec Axel, deux soirs de suite, sur la place de la cathédrale, donc on va dire de 18h à 22-23h, grosso modo. Et voilà, on voulait vous raconter un petit peu comment ça s'était passé. Nous, déjà, on a pris vraiment du plaisir à faire ça.
Ouais.
C'était vraiment chouette de voir, en fait, comme dans la grande majorité des cas, les gens super contents, en fait, d'observer la Lune comme ça. Puis un peu, on les prenait par surprise, quoi.
Oui. Allez,
bonjour, est-ce que vous voulez voir la Lune ? Puis hop, alors il y en a quand même, on va quand même parler un peu des différentes réactions qu'on a pu croiser.
Il y en a qui n'ont pas voulu voir la Lune.
Parce que c'est quand même assez rigolo, c'est une espèce de panel aussi, sur la statistique. Donc bon, déjà, il y a un côté un peu scabreux, bonjour, est-ce que vous voulez voir la Lune ? Je pense qu'il y en a qui se demandent s'il n'y a pas...
Si c'est pas une mauvaise blague.
Ouais, s'il n'y a pas un truc un peu graveleux derrière tout ça. Il y en a aussi qui nous ont regardé... comme si on leur parlait chinois, quoi.
Oui.
Ou limite à rigoler, genre, et puis à s'en aller. Comme si on racontait n'importe quoi, en fait.
Voir la Lune en pleine journée.
Alors, ensuite,
quoi.
On a eu aussi des réactions verbalisées comme ça.
Oui.
Ben non, mais elle n'est pas levée, il est 18h. Hein. Donc, on rappelle, pour ceux qui n'auraient jamais vu ça de leur vie, qu'en fait, la Lune, on la voit la journée. Parce que tout le monde
pendant
peut quand même...
Environ 15 jours par mois, en fait, tous les mois.
Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout incroyable, en fait. La Lune, elle bouge tout le long de son cycle et en fait, elle peut se lever ou se coucher à n'importe quelle heure selon son cycle. En fait, il n'y a pas de règles. Quoi. Enfin, il y a des règles, mais c'est, ça, en fait, elle se décale d'en moyenne 45 minutes tous les jours. Donc, donc en moyenne. Hein, parce qu'en fait, quand vous regardez, ça va entre 20 minutes et 1h15 selon les
saisons.
Mais grosso modo, en moyenne, ça fait un décalage de 45 minutes par jour. Donc vous allez passer par toutes les phases possibles. Avoir la Lune le matin ou avoir la Lune le soir, n'avoir pas de Lune du tout. Donc en tout cas, il y a des gens qui étaient surpris par ça.
Évidemment, quand on la voit de jour, c'est comme ça, à 18h, c'est pas la pleine Lune, hein, c'est toujours un croissant.
C'est sûr.
Là, on montrait
là, on était
le vendredi un tout petit croissant, le lendemain un peu plus gros. Et voilà, le premier quartier devait être hier, là, quelques jours après. Enfin, bon.
On était un peu moins du quart, ouais. On était Donc voilà, donc déjà on a eu un peu ces réactions, ce type de réaction. je vais quand même raconter un truc qui m'a fait rire, parce que donc un couple qui passe une soixantaine d'années, donc le monsieur qui voit les télescopes, qui nous voit autour, qui voit les affiches
jette un œil
aussi,
curieux, ouais.
Jette un œil comme ça et qui dit à sa femme, tiens, va y avoir un concert. Donc bon, déjà, donc là, je me retiens de rire et puis je m'approche vers lui. Bonjour, est-ce que vous voulez voir la lune? Et là, sa femme qui me fait, ah non, hein. Mais vraiment, ah non. Hein. Voilà, bon, c'était juste comme ça, des petites réactions. Mais sinon,
il y en a eu plein d'autres aussi, il y en a eu beaucoup qui nous ont dit, ah bon, on peut voir la lune, mais c'est mon rêve, j'ai toujours voulu voir dans un télescope,
ça,
toujours voulu voir la lune.
C'est quand même la grosse majorité des cas.
Et ça fait plaisir.
De gens qui étaient super contents, qui ne l'avaient jamais vu, qui n'avaient jamais observé dans un télescope. Voilà, globalement, quand même, les gens étaient super contents.
Oui, pour certains, c'était une découverte une première fois. Pour d'autres, parfois, c'était plutôt se remémorer des souvenirs. Il y en a qui m'ont dit, ah, mon papa, il observait la lune, mais des gens de 40-50 ans et qui me disent, quand j'étais petite, mon papa, il montrait la lune, ça me rappelle ça. Enfin, ouais, pour certains, je pense que c'était chargé en émotions.
Ouais, et du coup, pour nous aussi, parce que en fait, si on fait ça, c'est justement dans ce but-là. Oui. Et si on fait l'émission d'Astro, si on... Ok, nous, ça nous plaît d'en faire, mais si c'était juste ça, on en ferait tout seul et puis c'est tout. Donc nous, ce qui nous plaît aussi, c'est de le faire partager, d'amener les gens à ça pour eux-mêmes, pas pour la gloire de l'astronomie, enfin pas pour la gloire de l'asso, mais vraiment pour chacun parce que c'est beau et en fait ça fait du bien, quoi. Fait du bien, ça ouvre un peu l'esprit aussi, ça fait prendre de la hauteur, ça fait prendre de la perspective à la fois en termes spatial, en termes temporels. Voilà, on va pas aller plus loin dans le... Je pense que vous voyez bien le concept. Mais nous, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, avoir des retours comme ça, on était vraiment super contents d'avoir pu partager ça ensemble. Et puis, ce qui est génial aussi, c'est que ça passe toutes les barrières d'âge, de classe sociale. Ça n'a rien à voir, en fait. On a eu de tout.
Tous les âges, toutes les...
Ouais, tous les types de populations qu'on peut avoir à dire, en fait, on les a eues, en réalité.
Des touristes, des Allemands, un Russe.
Les jeunes, les vieux, les piccolos, les loulous, tout. On a tout eu. donc c'était vraiment chouette.
On y sera de nouveau l'année prochaine. Hein.
Ah, mais clairement. Ouais. Clairement
fin juin, on n'a pas encore les dates. Hein. C'est la SAF qui va les choisir. Mais ouais,
on va le refaire. Alors, il y a quand même aussi une question qui revenait souvent, c'était par rapport au prix du télescope. On a eu beaucoup de fois les gens qui nous disaient oh, mais quand même, ça doit coûter une fortune, ces instruments et tout. Alors, on voulait quand même en faire un petit rappel des choses parce que. Alors, qu'est-ce qu'on avait sorti comme matériel ce jour-là? On avait un tube de 200.
200 par 1000.
200 000. Donc voilà. Ça, c'est un tube comme ça. Nous, là, on va dire.
Pas de 200 euros, de 200 mm de diamètre.
Ouais, mais il se trouve qu'en gros, on l'a payé 200 euros.
Oui, c'est vrai.
Le tube. Voilà. Donc pour donner une idée. Par contre, il était sur une monture qui, elle, avait un suivi motorisé, etc. Une Q6, où là, effectivement, on est sur des budgets qui sont quand même à plus de 1000 euros la monture.
Oui. Mais on n'avait pas besoin de ça.
Mais mais on n'en avait pas besoin. On aurait très bien pu mettre notre tube de 200 sur une monture sans motorisation, plus basique.
À moins, je crois, à 150 euros. Quoi,
voilà. Donc, c'est pour dire qu'en fait, on avait déjà fait une émission pour parler du matériel, etc., mais on veut le redire ici, l'astronomie n'est pas un passe-temps réservé aux riches. Ça, c'est clair. En réalité, vous pouvez très bien vous acheter un télescope pour 400 euros. Alors, c'est 400 euros, je suis d'accord, ça se trouve pas non plus par terre. Enfin, il faut avoir de la chance. mais c'est pas non plus des sommes délirantes, quoi. Donc, on ne peut pas dire 400 euros, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de réservé à l'élite. Quoi. Et avec 400 euros, vous pouvez très bien vous acheter par exemple un 150-750. Nous, c'est un peu ce qu'on conseille, soit un 150-750 sur monture équatoriale, soit un Dobson 200.
Oui, voilà, parce que c'est le deuxième instrument qu'on avait la semaine dernière sur la place. C'était mon petit Dobson 250. Que j'ai choisi ce modèle parce que c'était du milieu de gamme. Enfin, j'ai mis un peu plus de prix que ce que, mais pour beaucoup moins, voire moitié moins, pour 400 euros. C'est clair qu'on peut avoir un Dobson de 200 et de bonne facture.
Un Dobson 200, c'est déjà super.
Ah oui, enfin, oui.
On fait déjà.
Il y a quasiment tout qui est accessible dans le ciel.
Quoi. C'est-à-dire, moi, j'observe avec un 200, par exemple. Oui. Alors, j'avoue que j'aimerais bien avoir un 300. Mais avec 200, déjà, on se fait plaisir sur les planètes, sur la Lune, sur les objets messiers. Il y a déjà de quoi apprendre le ciel, apprendre plein d'astronomie et visuellement se faire plaisir. Pour des sommes qui sont quand même pas délirantes. Donc ça, je voulais quand même le rappeler parce que pour moi, c'est important qu'on intègre bien l'astronomie amateur. C'est pas un truc de riche, quoi. C'est pour tout le monde. Et si vous avez pas de sous du tout, et ben venez à Marignac, on en reparlait tout à l'heure. Mais voilà, ou se rapprocher de nous, ou de gens
club,
qui ont du matériel et qui sont toujours prêts en fait à faire partager ça, parce que l'astro, ça se partage, quoi. C'est fait pour. Voilà. Donc voilà sur ce petit événement On the Moon Again. Voilà. Moi je te remercie Axel parce que c'est toi qui a quand même ramené ce truc là, qui a été vigilant sur cet événement. Tu l'avais déjà fait tout seul l'année dernière.
Ouais, c'est ça.
Tu le faisais d'ailleurs tout seul.
Oui.
C'est-à-dire toi par plaisir des fois tu prends ton télescope et tu le mets dans la rue. C'est une super démarche.
C'était même pas forcément par altruisme, c'était par praticité. J'avais pas de voiture et que j'habitais en centre-ville, je mettais le télescope devant chez moi en centre-ville. En 2019, on avait les planètes qui étaient accessibles en fin de journée, Jupiter et Saturne à 19-20 heures, là même avec le ciel qui était encore bleu au mois de juillet. Août.
L'an dernier pour les planètes, c'était...
Et du coup, voilà, j'observais devant chez moi et les gens étaient interloqués par mon télescope qui en plus a une gueule un peu pas ordinaire. Et je leur proposais d'observer et les réactions étaient toujours chouettes comme tu as pu le voir ce week-end en montrant la Lune.
Alors
d'ailleurs, comme on disait, ces instruments dits Dobson, qui sont en fait des Newton avec une monture spéciale, ont pris le nom de leur inventeur, John Dobson. Et lui, c'était sa démarche. Alors avec ses moyens d'Américain, donc il avait un Dobson de 600 ou 800 ou je ne sais plus, qui mettait dans la rue avec un panneau, venez voir la Lune, gratuitement comme ça. Et ça, c'est les années 70, ouais, 60-70, et où il avait cette envie de rendre accessible l'astro à tout le monde, quoi, que tout le monde puisse profiter de son matériel et de ce que le ciel nous offre.
Alors après là, juste par rapport aux images aussi qu'on a pu observer, c'est sûr que la Lune, en fait, quand vous l'observez de jour, l'image elle est moins contrastée que quand vous observez de nuit. Donc c'est sûr que quelque part vous voyez moins bien. Mais ceci dit, c'est quand même beau. Et puis c'est moi j'aime bien aussi l'observer sur fond bleu.
Ouais.
Ça change.
Ouais, c'est ça.
C'est même si c'est un peu plus diffus, oui, un peu moins contrasté, ça reste quand même très beau à voir. Évidemment, après, quand le soir est tombé, et puis à partir de 9h30, 10h, là, on voyait la Lune sur ciel noir, quoi. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi avec cette démarche de voir la Lune, c'est que même s'il y a un ou deux lampadaires, où là, par exemple, on avait quand même les lumières des restaurants, les trucs comme ça, en fait, on n'est pas vraiment gêné parce que la Lune, c'est tellement brillant que vous n'êtes pas vraiment pollué par les lumières, les petites lumières de la ville. C'est sûr qu'en plein Paris, c'est plus compliqué, mais même en fait.
Oui, mais même pour la Lune.
Ouais. Ouais. Pour la Lune, il n'y a pas de problème.
Pour cet événement, On the Moon Again, j'ai vu des gens partout dans le monde, dans les grandes villes. J'en ai pas vu à Paris, mais si, j'ai vu des photos de gens à Paris ou à Rouen, à Dijon, des villes un peu grosses, qui sont au milieu de la ville vraiment, et pour la Lune ça marche.
Donc c'est ça qui est intéressant aussi, ça marche pour la Lune, ça marcherait aussi j'imagine pour Jupiter ou Saturne, même si là on ne l'a pas fait. Après c'est sûr que si on part sur le ciel profond, les nébuleuses, les
galaxies,
là ça ne marchera pas. Ça c'est évident qu'on ne peut pas faire ce genre de truc en pleine ville. Mais voilà, là aussi pour répondre à des remarques qu'on a pu avoir, mais on est en pleine ville, vous n'allez pas être gêné par les lumières et tout. Oui, mais en fait non, pas pour la Lune.
C'est ça.
Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce chouette petit événement qu'on refera l'an prochain.
Merci à tous ceux qui ont participé, qui sont venus voir. Il y en a certains qui nous ont dit écouter l'émission, donc on les salue.
On les
remercie et puis on vous donne tous rendez-vous l'année prochaine, à peu près aux mêmes dates, fin juin, pour observer la Lune.
C'est
en sirotant une boisson au Café de Paris.
En même temps. On était à côté, donc forcément. Ok, on va marquer une petite pause musicale dans cette émission. Cette semaine, c'est Come Rain or Come Shine, la version de Don Henley sur la BO du film Living Las Vegas.
I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be too well if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in our way out of the money. I'm with you always. I'm with you rain or shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny,
sunny.
Et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors ça, c'était un petit morceau pour se faire du bien, donner un peu de baume au cœur aux amoureux et aux autres. Voilà. Alors on va attaquer la deuxième partie de cette émission. Et là, on va la consacrer à Marignac, Fête les Étoiles. Donc le 15 juillet, à Marignac, à la base de loisirs de Marignac. Donc on vous invite à venir là-haut à partir de 14h. Alors, on précise tout de suite qu'en cas de pluie, c'est annulé.
Oui.
Et en cas de ciel non...
Alors, en cas de couverture, on pourra quand même assurer les conférences et les ateliers.
Oui, on se débrouillera. Si c'est couvert, ce sera moins bien, mais on assurera quand même quelque chose.
On pourra faire l'observation, mais on pourra quand même passer un moment avec vous.
Mais s'il pleut, s'ils annoncent de la pluie, c'est sûr qu'on annulera l'événement. Oui. Voilà. Alors on s'est rendu compte là qu'il y avait une petite chose qu'on voulait mentionner, c'est qu'actuellement il y a des énormes incendies qui ont lieu au Canada.
Oui, qui sévissent depuis plusieurs semaines déjà.
Et en réalité ça a un impact puisqu'en fait, suite aux incendies il y a des nuages de fumée. Donc, on rappelle que les fumées c'est pas du gaz, les fumées c'est des micro-particules solides qui sont en suspension dans l'air. Ouais. C'est solide en réalité la fumée, c'est pas gazeux. Et donc, en fait, ces particules-là, elles obscurcissent le ciel. Et en fait, en discutant, je me rends compte que... Donc là, en fait, dans le Diwa, depuis quelques jours, c'est assez perceptible. L'autre soir, j'ai vu la lune en début de nuit et je l'ai trouvée franchement étrangement rouge. Et là, je réalise qu'en fait, c'est dû à ça.
Probablement, oui. Ouais, moi, j'ai... Alors on enregistre là en début de semaine, la météo annonçait un ciel très correct, bleu, enfin voilà, il y a la lune qui est de plus en plus présente, donc j'étais pas sûr de pratiquer de l'astro, mais je me suis dit quand même le ciel est bon, peut-être que je ferai quelque chose, et puis je me lève et je vois que le ciel est pas bleu mais blanc, et la météo continue à annoncer pas de nuages, et en fait voilà, c'est ça, c'est cette masse de fumée venue du Canada qui s'installe au-dessus de la France. Et qu'on espère qu'il ne va pas rester là longtemps pour la pratique de l'astro cet été. En tout cas, ça serait meilleur.
En tout cas, ça va dépendre des vents.
Oui.
Parce que là, jusqu'à présent, c'était les Américains, les États-Unis qui recevaient ça. On a eu aux infos là, qu'à New York ou ailleurs, ouais. Il y avait des villes où en fait, l'air était devenu quasiment irrespirable.
Ah oui, j'ai pu voir des photos de New York, là, le fameux landscape de New York. Ouais, Skyline, pardon, à chercher le mot. Le paysage urbain de New York, pris depuis je sais pas où, là, peut-être la Statue de la Liberté, enfin bref, et cette photo emblématique là, récemment prise, on dirait, avec une tempête de sable un peu, quoi, très, très jaune, sépia presque.
Donc c'est un impact réel. Là, on voit encore que la planète Terre est une planète, c'est une entité et que tout est relié. Les choses ne s'arrêtent pas aux frontières, n'en déplaise à certains.
Qui n'est pas si grande. Parce que là, j'ai lu que ce nuage de fumée là qui nous arrive dessus est plus grand que la France en superficie.
Donc c'est des millions d'hectares qui brûlent, oui, on rappelle, ouais. Donc c'est juste monstrueux.
Des centaines de millions d'hectares qui ont déjà brûlé là-bas.
Bon. Ouais. Voilà, donc on ferme la parenthèse, on vous le mentionne en tout cas, là, cette fin de mois de juin, début de mois de juillet, si vous observez par exemple la lune très rouge, ou si vous voyez en fait, que le ciel qui est censé être dégagé en fait, ne l'est pas, eh bien, vous pouvez voir que ce sont les fumées du Canada.
Oui, hier j'ai pu observer le soleil aussi, on peut toujours observer le soleil à l'œil nu quand il est vraiment au couchant. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Et hier, j'ai pu l'observer sans instrument, sans protection. Et je me suis mis, il est vachement haut quand même pour pouvoir l'observer. C'est encore une fois ce masque de fumée devant qui bloque une partie de la lumière. J'ai vu d'ailleurs, je ne sais pas combien, ça peut durer quelques jours aussi, ça, qu'il y a une grosse tache solaire en ce moment sur notre astre. Et grâce à cet écran de fumée, il y a quand même un petit avantage. À l'œil nu, on peut arriver à distinguer cette tache solaire. Ouais. Ça, j'avais lu ça aussi il y a bien longtemps, que ça avait été une des premières interrogations de nos ancêtres à l'époque où la vision aristotélicienne disait que tout ce qui se passait au-dessus de la Lune était immuable, enfin qu'en gros il ne se passait rien au-dessus de la Lune, que c'était figé. Et certains, grâce à parfois des tempêtes de sable du Sahara ou voilà, des conditions météo particulières, pouvaient observer avant l'invention des instruments d'optique le Soleil à l'œil nu et ils ont vu des taches qui apparaissaient, qui disparaissaient parfois. Ils se sont dit ah ben, peut-être pas si immuable que ça. Enfin, voilà, c'est un des premiers questionnements.
Immuable et surtout, c'est censé être immuable et parfait. Oui. Or, une tache sur le disque du Soleil le rend imparfait et donc ça colle plus à la théorie. Donc il avait eu des problèmes d'ailleurs. Galilée, il me semble.
Moi, j'ai souvenir de ça il y a bien longtemps, avant Galilée plutôt, même dans l'Antiquité. Quoi.
En tout cas, au moment où les taches solaires ont été découvertes, ça avait fait bondir l'Église.
Oui, voilà. Ouais.
Comme à chaque fois qu'on fait. Enfin bon.
Alors revenons à.
Revenons à nos moutons à Marignac, et à Marignac.
Donc le ciel sera dégagé, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de fumée.
Voilà, on espère qu'il sera là. Beau, on sera là. Donc en fait, on ouvre les portes à 14h. Donc l'après-midi, c'est vraiment consacré. C'est une après-midi pour les enfants principalement. Alors il y aura des choses. Pour les adultes, mais pour les adultes, concrètement, ce que vous pourrez faire, à part traîner au bar,
observer le soleil.
Observer le soleil, exactement.
Avec un instrument adapté, bien sûr.
Donc, on a effectivement le matériel qui permet d'observer le soleil directement, donc à la fois les taches sur le soleil dont on vient de parler, mais aussi les protubérances, c'est-à-dire ces espèces de...
D'éruptions
qui sont à la surface du soleil et qu'on peut voir. Et puis, il y aura aussi toute l'expo d'astrophoto de Rémi. Qui sera là. Et pendant ce temps, pour les enfants, en fait, il y a la compagnie...
Fabrica d'Abrac,
qui viendra proposer tout un tas d'ateliers, pas forcément scientifiques, hein. Il y a aussi de la marionnette, mais bon, il y a du bricolage, il y a l'idée de faire un peu les choses soi-même.
Ouais.
Et voilà. Et donc, il y a aussi l'idée que les enfants vont préparer un spectacle qui aura lieu à 21h,
ouais.
Qui sera présenté le soir à 21h. Voilà. Donc ça, c'est pour le programme de l'après-midi.
Ouais. À 14h.
Il y aura aussi donc la paillote, hein, qui vient faire à manger. Donc il y aura, ils ont prévu du goûter, des gâteaux, des choses. Ah, voilà, de bonnes choses.
Rien que pour ça, j'y vais.
Kelly est une super pâtissière, on mentionne. Donc voilà. Et puis ensuite, à partir de 18h, ce sera des deux conférences. Et là, vous avez à l'antenne les deux conférenciers de Marignac. Donc, c'est moi qui débuterai sur une conférence sur l'univers à grande échelle. Alors, le titre fait peut-être un peu pompeux, mais l'idée, en fait, ça va être vraiment d'essayer d'aller voir plus loin.
Plus loin que le système solaire.
Donc les galaxies et comment ces galaxies, elles s'organisent aussi un peu dans l'espace. Voilà, donc on discutera de ça. Et ensuite, Axel, toi, tu nous parleras d'images commenter.
Simplement commenter une série d'images qui m'ont marqué, parfois personnellement, qui ont pu marquer aussi l'humanité, je pense, ou au moins la communauté scientifique ou des astronomes. Pas forcément que des astrophotos, hein, y aura un peu de tout. Enfin, voilà, je dévoile rien. Mais voilà,
on vous donne au moins les thématiques. Ouais, hein. Et là, ensuite, ces deux conférences seront suivies par une petite séance de questions-réponses qui seront enregistrées et qui ensuite seront radiodiffusées donc sur l'antenne de RDY. Et ce sera un peu l'émission de l'été. Donc, si vous voulez venir y participer, vous pourrez ensuite réécouter ça à l'antenne le dimanche matin à partir de 9h10 ou sur le podcast de l'Étoile Polaire sur le site de RDY. On précise que ce sera à l'occasion de la 50e quand même émission de l'Étoile Polaire.
Oui.
Donc voilà, on est content aussi. Ça change pas grand-chose, c'est un peu symbolique, mais ça fait plaisir. Oui. 50e émission, on la fera à Marignac le 15 juillet. Voilà. Suite à ces conférences et à cette petite séance de questions-réponses, là il y aura une pause, on va dire, pour manger. Avec un petit peu de musique, là c'est Philippe qui viendra nous animer ça. 21h, le spectacle des enfants. Et puis, à partir de 22h30, on attaquera le tour du ciel, présentation des constellations. Et ensuite, ce sera l'observation avec les instruments. Alors, on l'a mis sur les affiches et sur les flyers. On vous invite vraiment à amener vos jumelles si vous en avez. On va essayer de faire un peu un tour du ciel aussi aux jumelles, d'observer ensemble, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Mais en réalité, c'est un outil qui est très, qui est assez facile d'accès quand même, les jumelles.
Oui, tout le monde en a.
Alors, elles sont plus ou moins adaptées à l'astro, bon, de toute façon, ça fait quand même des jumelles et ça permet de voir mieux qu'avec nos yeux.
C'est ça.
Voilà. Donc, de toute façon, en fait, on peut observer le ciel aux jumelles et et en fait, y a, comme on le disait tout à l'heure, par exemple, sur des objets comme la galaxie d'Andromède ou le double amas de Persée, les choses comme ça, en fait, c'est avec des jumelles qu'on obtient les plus belles images. Donc voilà, on vous invite à les amener. Il y aura une partie qui sera observation aux jumelles ensemble, un peu guidée. Et puis les télescopes, là on sera plusieurs à tenir des instruments. On vous invitera à passer de l'un à l'autre. Et puis Rémi, qui montrera, comme l'année dernière et comme à d'autres occasions, son système de visuel assisté. Donc il consiste en fait via une caméra qui est placée derrière le télescope, à projeter l'image qu'on voit dans le télescope sur un écran. Donc, ce qui permet en fait, ce qui permet à plusieurs personnes en même temps de la voir, mais ce qui permet aussi à des gens pour qui c'est pas forcément évident de venir observer derrière le télescope, de pouvoir le faire. Donc, je pense
si c'est un petit Dobson, âgées, il faut s'allonger voilà. Par terre. Si c'est un grand Dobson, il faut monter un escabeau.
C'est pas toujours, faut être honnête,
pas toujours confortable.
Pas toujours super confortable. Des fois, c'est des positions un peu scabreuses pour observer.
Ouais.
Donc, si on a des personnes qui sont un peu âgées ou des personnes qui sont en mobilité réduite ou etc. etc. Et ben, c'est pas forcément évident. Donc, le visuel assisté, il intervient aussi à ce niveau-là. À la fois c'est plus de monde, mais c'est aussi tout le monde qui peut observer à ce moment-là.
Et puis ça permet aussi d'apprécier les couleurs de certains objets qui nous sont inaccessibles à l'œil, enfin j'allais dire à l'œil nu, mais non, mais avec l'œil au télescope.
Oui.
Mais par contre, le capteur de la caméra, lui, restitue très bien les couleurs naturelles des objets du ciel.
Il restitue les couleurs, et puis l'intérêt aussi, c'est qu'en réalité, ce n'est pas exactement ce qu'on voit avec notre œil derrière le télescope, parce qu'en fait, on fait des photos qui ont, je ne sais pas combien il fait de pause, 10, 30 secondes,
quelques secondes.
Et donc, du coup, en fait, on voit beaucoup mieux les détails que l'œil. Parce qu'on rappelle que l'œil, lui, il fonctionne en fait en 24 images par seconde. Donc voilà, on stocke la lumière pendant un 24e de seconde à chaque fois qu'on voit quelque chose. Alors que là, on va la stocker pendant plusieurs secondes. Donc forcément, on voit mieux. C'est aussi ça l'intérêt du visuel assisté. Voilà, et puis tout ça en musique avec le collectif Vichien Rouge qui continue à nous accompagner. On les en remercie et qui viendra jouer sa musique ambiante techno live. Pour accompagner les observations.
Ouais.
Voilà pour cet événement.
On rappelle que le tout est à prix libre.
C'est ce que j'allais dire. Ouais. Le tout est à prix libre. Donc à l'entrée, on laissera une caisse. Et aussi les ateliers de l'après-midi sont à prix libre.
Ouais, ouais.
Donc tout ça, ça va nous permettre de défrayer un peu les gens. Payer, c'est un grand mot, mais au moins défrayer et qu'on puisse organiser ça sans non plus... On est de notre poche.
Surviner, oui.
Voilà.
La buvette n'est pas à prix libre, hein, par contre.
Non, la buvette ne sera pas à prix libre, mais elle ne sera pas trop chère non plus.
Voilà. Évidemment, on peut aussi remercier, tu as parlé de nos partenaires, la Fabrique à Dabrac, Rémi, enfin moi-même avec mon entité Cosmodicée, mais surtout la mairie de Marignac-en-Diois et monsieur le maire Bernard Cellier qui nous soutient et qui nous aide. Beaucoup.
Qui nous soutient et qui, on le rappelle, est le créateur de cet événement.
C'est vrai.
Historiquement, c'est quand même lui qui a monté cet événement. Mmh. Et on rappelle qu'il, l'an dernier, en fait, il nous a proposé de prendre la suite de l'organisation, lui-même ne souhaitant plus s'y investir autant. Et c'est ce qu'on a fait. Donc évidemment, on le remercie. Et même encore cette année et l'an dernier, ouais, il nous soutient, il nous aide. Donc merci.
Ouais.
Et on remercie aussi par avance tous les bénévoles qui vont venir nous donner un coup de main. Voilà, pour cet événement, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ce qu'on espère surtout, c'est qu'il fera beau, que ça va pouvoir être maintenu.
Mmh.
Et puis que vous viendrez nombreuses et nombreux pour faire de l'astro avec nous.
Et pour discuter avec nous.
Et pour discuter.
Ouais.
On vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.
À bientôt.